Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans LP de Nuit. LP de Nuit, c'est la référence à écouter pour être au plus proche du lycée. Vous retrouverez ici nos internes et leurs chroniques pour leur plus grand plaisir de vos oreilles. Et n'hésitez pas à nous retrouver en ligne sur le site de Delta FM ou bien sur notre page YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui sans notre animatrice, mais ne vous en faites pas, tout se passera bien. Ce soir, nous plongerons au cœur de la musique avec Néo, poursuivi avec la nuit archi intéressante de Gabriel, l'actu culture de Chloé, puis une question philosophique de Marius, et pour finir, un voyage à travers le cosmos en ma compagnie. Maintenant que je vous ai présenté notre équipe de chroniqueurs pro, il est l'heure de lancer le générique maestro. Bonjour à toutes et à toutes, vous allez bien?
Ça va très bien, et toi?
Tout va bien.
Très bien.
Ok, moi ça va. Pas trop stressé pour le bac qui arrive dans un mois, Gabriel, Marius?
Faut mieux pas en parler.
De quoi tu parles? Je ne comprends pas.
Je connais pas. Non, bac, ça me dit rien.
Ok. Bon, eh bien, je vous propose que l'on attaque tout de suite avec un voyage au cœur de l'industrie musicale avec Néo.
Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on vit tous les jours, ou presque, parfois même sans s'en rendre compte, et qui pourtant nous chamboule, nous soigne, nous fait vibrer. On va parler de la musique. On va pas juste se dire « j'aime bien ce morceau, j'aime bien ce style de musique ». On va pas non plus parler métal, non. Je vous parle de ce qui se passe dans notre cerveau quand on écoute de la musique, et l'influence que cela peut avoir. Déjà, quand on écoute un morceau, c'est pas juste les oreilles qui bossent, et en fait c'est presque toutes les zones du cerveau qui s'allument, qui s'activent, en commençant par le cortex auditif, qui nous permet de percevoir et de discerner les différents sons. Mais aussi les zones de la mémoire. D'ailleurs, il nous est déjà tous arrivé d'avoir une musique entêtante qui nous tourne en boucle dans la tête toute la journée, et bien voici une preuve de l'utilisation de ces zones du cerveau. On utilise également les zones de la motricité. C'est ce qui peut nous donner envie de bouger, de danser, de taper du pied, ou encore de bouger la tête quand on écoute de la musique. Les zones de l'émotion sont aussi sollicitées. C'est ce qui peut procurer des frissons ou même parfois donner envie de pleurer. Pour finir, même les zones associées au plaisir sont utilisées. Donc en gros, écouter de la musique, c'est comme offrir une séance de muscu complète à votre cerveau. Sauf que c'est fun. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que certaines chansons nous rendent heureux, nous filent la chair de poule, nous donnent une boule au ventre, voire même nous font pleurer. Alors tout ça, c'est pas de la magie, c'est juste dû à la dopamine. Donc quand un morceau nous plaît, le cerveau libère cette fameuse molécule du plaisir, et parfois il anticipe même une montée, un refrain ou une note clé. Donc ce qui peut donner comme résultat des frissons, des larmes ou encore un sourire. Le corps réagit comme s'il vivait une émotion assez intense. Donc c'est aussi pour ça qu'on associe certaines chansons à des souvenirs. Le cerveau fait le lien entre un son et le mouvement et le moment vécu. C'est ce qu'on appelle donc la mémoire épisodique musicale. Voyons maintenant les effets de la musique sur le corps, puisque la musique c'est des vibrations et notre corps adore les vibrations. Donc un rythme rapide, ça peut accélérer notre fréquence cardiaque, tandis qu'un tempo lent peut la ralentir. La musique peut réduire l'anxiété, diminuer la douleur, améliorer le sommeil et tout un tas d'autres choses qui sont assez bonnes pour le corps, pour notre santé. Et en médecine, on l'utilise même dans certaines thérapies pour les AVC, Alzheimer ou même Parkinson. C'est pas pour rien qu'on parle de musicothérapie. Donc des patients, aphasiques retrouvent parfois la parole en chantant. Donc même si ça peut paraître fou, bah, c'est bel et bien vrai. La musique, c'est un raccourci vers le cerveau, là où les mots parfois n'arrivent plus. Sachez maintenant que le cerveau aime la musique dès notre naissance, voire même avant. Les bébés réagissent à la musique avant même de naître. Des études ont montré qu'un fœtus dans le ventre bouge plus lorsqu'il entend une mélodie. Donc, dès la petite enfance, la musique aide d'ailleurs à développer le langage, la mémoire, la coordination et même l'intelligence émotionnelle. Moralité, faites écouter de la musique aux enfants. Pas juste des comptines, faites-leur écouter des trucs variés, riches et de tout style. Surtout du métal si vous pouvez. Et un jour, leur cerveau vous dira merci. Donc quel que soit le pays, la culture, la langue, le cerveau de chacun réagit à la musique. Même si on comprend pas forcément les paroles, voilà, le cerveau réagit. Et on a tous des réactions instinctives au rythme, à la mélodie, à la dissonance. Donc c'est presque préhistorique. Certains affirment que la musique aurait précédé le langage dans l'évolution humaine. Et que avant de parler... probablement on chantait. En conclusion, écoutez de la musique. Il n'y a que des bienfaits sur le corps. Alors la prochaine fois que vous lancez votre playlist préférée, souvenez-vous que vous n'êtes pas juste en train de passer le temps. Vous stimulez votre mémoire, vous régulez vos émotions, vous prenez soin de votre cerveau et vous vous offrez un shoot de bonheur naturel. Et ça sans ordonnance et sans conséquences négatives. Donc merci pour votre écoute. À lundi prochain et d'ici là, écoutez ce qui vous fait du bien. Votre cerveau vous le rendra bien.
Eh bien, merci beaucoup, Néo. Je ne savais absolument pas tout ça. C'est vraiment sympa de te couvrir tout ça.
Avec plaisir.
Marius, tu avais une musique à nous faire découvrir.
Ouais, bah en fait, quand je t'ai écouté, Néo, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, moi, je me suis dit que, bah, en vrai, il y a une annonce qu'on pourrait faire. Bah, c'est tout simplement que bah, tous les événements de musique, etc., ça serait bien d'en faire au lycée. Et puis, ça tombe bien parce qu'il y a une ACF dans le lycée qui s'appelle Humanite. Qui a organisé un concert le samedi 17 mai au Confort Moderne, donc en collaboration avec le Confort Moderne de Poitiers. Donc vous pourrez trouver vos places pour 10 à 13 euros et vous allez pouvoir voir Daft Leaky, un rappeur émergent de la vague de la Northside, donc il provient de Lille et il est connu pour de nombreux sons avec d'autres rappeurs comme Gapman ou encore Lucci. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Et ouais, sinon, comme musique, on peut, par exemple, de Daft Leaky, il y a Brr Brr, qui peut être très intéressant musicalement, je trouve.
Nous l'écoutons tout de suite, du coup, et maintenant, Brr Brr de Daft Leaky.
Yes.
Damn, push, can you get this shit on film? T'as fumé sur ma weed, t'es pas solide, fini en OD. Ça fait 3 ans que j'suis dans le game, ça voit déjà comme un OG. Mes frères sont incarcérés, majeur en l'air, fuck la police. Je sors du shop avec une sacoche Louis V, j'la remplis. J'finis le show, j'encaisse l'espèce, putain j'aime trop mes groupies. Sois prêt à mettre le bif, vider ton sac, j'te m'aborde dans le fil. Elle voit mon or, elle donne sa pussy. J'me souviens, j'étais pourri en mathématiques, mais aujourd'hui d'appliquer contre les fictes. That's a cold word from la beuh. Dans le jet sur mes semelles, des empreintes, y'en a deux. J'ai des croquettes pour les chants, laisse qu'elle fume sur les deux. Y'a ta meuf qui se fait gonfler les lèvres, j'ai délaissé sa touche. That's a cold word from la beuh. Dans le jet sur mes semelles, des empreintes, y'en a deux. J'ai des croquettes pour les chants, laisse qu'elle fume sur les deux. Y'a ta meuf qui se fait gonfler les lèvres, j'ai délaissé sa touche. That's a cold word from la beuh. Dans le jet sur mes semelles, des empreintes, y'en a deux. J'ai des croquettes pour les chants, laisse qu'elle fume sur les deux. Y'a ta meuf qui se fait gonfler les lèvres, j'ai délaissé sa touche. Elle commence avec la MD, elle finit avec le crack. C'est trop ça. Nego Hogan die dans tous les cas d'afflicky track. Je regarde ta chute monumentale, j'suis posé sur le yacht. That's a cold world, comme j'ai dit, mais j'ai des faf. Amiri dans le shop, on regarde pas le prix, mais grosse habit. Il me faut un parapluie, t'es mal et ça, mais grosse à drug. Elle donne sa touche en club, du potentiel, je deviens son père. J'ai du love pour ma maman, j'peux pas respecter. That's a cold word from la beuh. Dans le jet sur mes semelles, des empreintes, y'en a deux. J'ai des croquettes pour les chants, laisse qu'elle fume sur les deux. Y'a ta meuf qui se fait gonfler les lèvres, j'vais délaisser sa touche. That's a cold word from la beuh. Dans le jet sur mes semelles, des empreintes, y'en a deux. J'ai des croquettes pour les chants, laisse qu'elle fume sur les deux. Y'a ta meuf qui se fait gonfler les lèvres, j'vais délaisser sa touche. That's a cold word from la beuh. Dans le jet sur mes semelles, des empreintes, y'en a deux. J'ai des croquettes pour les chants, laisse qu'elle fume sur les deux. Y'a ta meuf qui se fait gonfler les lèvres, j'vais délaisser sa touche.
Eh bien, merci pour cette écho. Tu peux nous rappeler le nom de cette musique et de l'artiste, s'il te plaît ?
Alors, le nom de l'artiste, c'est Daft Leaky, donc D-A-F-L-I-C-K-Y. Et son titre, il s'appelle Brr Brr, genre B-R-R, espace B-R-R. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Marius, de nous avoir fait découvrir cette
musique. Avec plaisir.
On enchaîne avec un trajet jusqu'à notre bâtiment de la semaine avec la nuit archi intéressante de Gabriel.
Alors ce soir, je vais vous parler de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes.
Thank you.
Donc, il faut vous imaginer au cœur de l'île de Nantes, entouré par la Loire, qui se dresse devant vous, un étrange bâtiment. Ça ressemble à une école, mais ça ressemble aussi à un parking à étages. Il faut savoir que, dès la fin des années 80, l'école d'architecture donc de Nantes était à l'étroit, en fait, dans des anciens locaux qu'elle occupe depuis 1973. C'était à la Mulotière, sur un site verdoyant mais qui était au nord de la ville. Alors, l'école est s'oriente vers une reconstruction, mais sur place, c'était un peu compliqué. Avec des nouveaux enseignants qui sont arrivés dans l'école, ils ont décidé, en 95-96, d'une nouvelle direction au projet, construire une école qui était ouverte en plein centre-ville. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de l'implanter au cœur de Nantes. C'est finalement en 1997 que la décision est prise. L'ENSA, donc l'École Nationale Supérieure d'Architecture, est localisée sur l'île de Nantes. Donc, territoire qui est alors aux prémices de grands projets urbains et qui se développe encore aujourd'hui. La maîtrise d'ouvrage, donc les différentes décisions et les différents clients, est donc assistée par les représentants des futurs usagers du bâtiment, donc les différents professeurs, les futurs étudiants. Et au programme, donc, il y a un concours. Et c'est finalement en 2003 que ce concours va être remporté par l'équipe Lacaton et Vassal. La construction a débuté donc en 2006 et les équipes et les étudiants ont investi les lieux seulement en février 2009, avec l'organisation d'un événement ouvert à la population nantaise. Donc comme je le disais tout à l'heure, le bâtiment a été imaginé par Lacaton et Vassal, qui sont deux architectes donc. Ils ont gagné le Grand Prix National de l'Architecture en 2008 quand même, avec ce bâtiment. Donc c'est pas seulement une école en fait. C'est aussi un bâtiment qui est un peu un espace public. Car en fait, il y a aussi beaucoup d'installations pour les étudiants, mais c'était aussi un des premiers bâtiments qui a inauguré le quartier qui s'appelle aujourd'hui le quartier de la création sur l'île de Nantes. Et aujourd'hui, on y retrouve par exemple l'école des beaux-arts, l'école d'art contemporain ou encore l'école de design. Donc c'est vraiment au cœur d'un changement au sein de l'île de Nantes. Elle est implantée au numéro 6 quai François Mitterrand, sur l'île de Nantes donc. Et il y a deux principaux bâtiments qui forment l'ensemble de la ville. Avec les deux bâtiments principaux qui sont reliés par une passerelle qui viennent un peu former cette école. C'est quand même assez grand, on est quand même sur une surface de 26 000 m², donc c'est assez énorme. Le but de cette école, c'était vraiment d'être ouvert sur la ville, comme je disais tout à l'heure, donc avec des espaces publics qui sont aujourd'hui des lieux d'exposition, des bibliothèques et même un amphithéâtre qui est ouvert au public pour différentes expositions. Au programme, il y avait une école d'architecture pour 1000 étudiants. Aujourd'hui, l'école en compte 1500, donc ça a été un peu agrandi par rapport à la surface initiale. Il faut savoir aussi que au-delà de 26 000 m², qu'est-ce qu'il y a dedans en fait ? Il y a quand même 5305 m² de terrasse extérieure. Donc on est quand même sur un bâtiment qui est très ouvert sur l'extérieur, avec une grande vue. Et c'est un bâtiment qui est conçu en trois planchers en béton, largement ouverts. Donc tout d'abord avec un étage à 9 mètres, un autre à 16 mètres et un autre à 22 mètres. Avec une pente douce depuis l'extérieur pour accéder au bâtiment, qui est surélevé. Il faut savoir qu'à l'intérieur même du bâtiment, on a une petite structure qui a redivisé les différents étages. Donc on a deux volumes principaux en béton qui sont redivisés à l'intérieur. Et ça permet par exemple d'avoir des espaces qui sont très changeants. Par exemple, on a des espaces pour le programme principal avec des amples volumes pour que les étudiants puissent travailler tranquillement avec une double hauteur sous plafond qui est assez énorme. Et il y a aussi d'autres endroits avec des grandes façades transparentes pour des apports solaires et des grandes vues sur la ville de Nantes. Il y a aussi bien sûr des salles qui sont réutilisées pour des événements ou de la programmation, comme par exemple avec l'association étudiante qui utilise la salle de conférence pour faire des programmations cinéma ouvertes au public. Et l'école a aussi des nouveaux enjeux de reconversion, car ce n'est pas seulement pour les enseignements pédagogiques, il faut aussi savoir que dans ces espaces-là, il y a les étudiants qui peuvent aussi travailler sur d'autres choses, s'approprier par exemple une cafétéria. Ils ont créé une cafétéria à partir d'un espace qui est maintenant autogéré. Il y a aussi beaucoup tous les ateliers du coup, de création qui sont autogérés par les étudiants. Donc le fait d'avoir fait ces grands espaces assez immenses, assez vides, qui ressemblent à peu près à un ancien parking en fait, en hauteur, on a vraiment le droit pour les étudiants d'avoir des grands espaces autogérés, des endroits assez beaux, très lumineux. Donc ça laisse vraiment la possibilité aux futurs étudiants architectes d'être vraiment libres de s'exprimer et de réfléchir avec des nouveaux espaces, avec le béton, la lumière sur toute la ville. Mais il y a quand même quelques revers dû à la solution technique. Par exemple, on sait que c'est un bâtiment qui est très mauvais sur le plan thermique, parce que c'est vraiment surchauffe l'été à cause des vitres partout. Et certains endroits, genre des zones tampons entre les grandes pièces, se retrouvent très vite un peu froid en hiver. Donc il y a quand même un petit problème. Et puis aussi au niveau acoustique, parce qu'il se retrouve qu'il y a une fanfare qui est d'étudiants qui est dans le bâtiment. Et donc quand ils font des grands concerts, tout le voisinage se trouve très vite embêté. mais c'est quand même un bâtiment qui a permis à l'ensemble des étudiants d'avoir accès à pas mal de projets et de pouvoir créer et laisser libre cours à leur imagination. Je vais citer donc Jean-Philippe Vassal et Florian, donc les deux architectes. Qu'est-ce qu'ils ont dit de leur école ? Bien, ils ont dit que nulle part ailleurs ne cohabite plus de connaissances, d'informations et d'énergie que sur l'aménagement d'une agglomération que dans une école d'architecture. Il en circule davantage que dans un atelier d'urbanisme, une mairie ou des agences d'architecture. Donc là, ils viennent vraiment souligner l'importance que peut avoir une école, bien plus qu'une agence ou des choses qui sont un peu contrôlées, pour vraiment laisser place à la liberté. Donc voilà, je vous ai présenté l'école d'architecture de Nantes. Et maintenant, je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez saisi l'ensemble des informations principales. Donc, première question, attention. En quelle année a été construite l'école nationale d'architecture de Nantes ? Vous avez plusieurs propositions. Soit 1973, soit 2003, soit 2009.
Je dirais 1973.
Ouais, je crois aussi, ouais.
Eh bien, c'était en 2009 qu'elle a été ouverte, en fait.
Ah, okay, mais pas qu'elle a commencé à être...
Elle n'a pas été construite en 73 non plus. C'est pas la bonne réponse.
C'est une question piège, un peu.
Ouais, c'était une question piège, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en 1973, bah, ils ont décidé de commencer les travaux. Et ouais, donc, en 2003, okay, ils ont finalement décidé de lancer le projet. Mais c'est qu'en 2009 que le projet est vraiment finalisé, qu'ils sont finis les travaux, que ça prend sur toute l'année de travail. Mais okay, c'est pas une question facile. Donc, quels sont les noms des architectes qui ont créé donc l'école ?
Jean-Philippe Vassal.
Ouais, c'est ça, exactement. Pas besoin de faire les propositions, il a...
Et le deuxième, je l'ai pas.
Et le deuxième, c'est Lacaton. Voilà.
Lacaton.
Ouais, ils ont formé ensemble une agence, tous les deux, du
original
coup.
Original comme prénom.
Ouais. Ils ont quand même gagné le Grand Prix d'architecture avec leur école en 2008, du coup.
Oula.
Ok.
Donc, ça leur a pas mal réussi.
Respect. Malgré leur nom.
Ouais. Quel est le nom, du coup, du quartier qui a vu le jour avec l'école ?
François Mitterrand
Non, ça, c'est du coup le nom du lieu.
Ah oui, 81, qui est François Mitterrand. Oui.
Exactement. Et donc, les réponses, c'est soit réponse A, le quartier de la création, soit réponse B, l'île de Nantes, soit réponse C, le quartier de Toussaint l'Ouverture.
Ça doit être le 1.
C'est... Ouais, c'est
le 1 ou le 2. J'aurais dit le 2, hein.
Hein, le 2, ouais.
Personne n'est d'accord. Léandro va trancher.
Je partirai sur le 2 quand même.
Le 2, ouais. L'île de Nantes. Eh bien, non.
C'était le 1 ?
C'était le 1.
Ouais,
c'est
le 1 qui l'a gagné. Bravo, serre-moi la main.
Car c'est le quartier de la création, effectivement, qui a vu le jour. Serre-moi avec, du coup, bah, après les Beaux-Arts de Nantes qui sont arrivés. Aussi l'école du design qui permet de faire des magnifiques soirées, du coup, mélangées avec tous les étudiants d'art, d'architecture et tout.
Ouais, très stylé.
Donc, c'est plutôt sympa. Ouais. Voilà. Mais merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci beaucoup, Néo. On reste sur des sujets d'actualité avec la chronique de culture de Chloé.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette chronique sur la culture. Aujourd'hui, je vais nous plonger dans l'univers de la mode. Alors là, vous devez vous demander en quoi la mode a un lien avec la culture. Eh bien, ce lien, c'est un événement qui l'a tissé, le Met Gala. Alors, le Met Gala, qu'est-ce que c'est ? Pour faire court, c'est un événement de mode qui regroupe les plus grandes personnalités de la culture, donc musique, cinéma, etc., pour une soirée par an au Metropolitan Museum of Art, aussi appelé le Met, à la suite duquel se déroule une exposition de plusieurs mois. C'est organisé par Anna Wintour, une journaliste britanno-américaine et rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine Vogue depuis 1988. Il y a un thème différent par an et en cette année 2025, le thème était « Tailoring Black Style », en français le dandysme noir avec l'art du tailleur, donc tout ce qui est costume à cravate, etc. Pour ce qui est des dates, le gala se déroulait auparavant vers le mois de décembre, mais depuis le début des années 2000, il a lieu vers le mois de mai. Cette année a eu lieu la semaine. Cette année, il a eu lieu la semaine dernière, le lundi 5 mai à 18h, heure new-yorkaise, et à minuit, heure française. Pour vous citer quelques personnalités invitées au Met Gala au cours de l'histoire, nous avons pu y retrouver Billie Eilish, The Weeknd, Ariana Grande, Rihanna, et pour citer plusieurs fiertés françaises, nous avons déjà eu Omar Sy, Audrey Tautou, Camille Cotin, Vanessa Paradis et Léna Situation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une créatrice de contenu. Elle est notamment connue pour ses vlogs d'août et sa marque Hôtel Mafouf. Voilà! C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ma chronique vous a plu et que vous êtes à présent intéressé par le Met Gala au point que vous sacrifierez votre sommeil l'an prochain pour le regarder entièrement. Salut, salut !
Eh bien, merci beaucoup Chloé. Tu as pu regarder ou pas cet événement ?
Alors non, justement, j'ai pas sacrifié mon sommeil, j'ai préféré dormir, mais j'ai un ami qui l'a fait, qui a préféré s'endormir. à 21h, mettre un réveil et se réveiller à minuit et passer la nuit devant.
Ok, ok. Ben, merci beaucoup. On termine avec un petit bout de voyage. Excusez-moi, on accueille Marius qui va nous faire sa question philosophique. Intriguant pour quelqu'un qui faisait du rap.
Et oui, en effet, bah en fait, faut savoir que moi j'aime beaucoup le rap, vraiment beaucoup. Mais il y a aussi une petite part de philosophie qui arrive certaines fois, comme ça, en coup de vent, dans ma vie. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de philo. Aujourd'hui, on parle d'un truc assez problématique, mais dont tout le monde s'en fout. Donc pourquoi les hommes politiques mentent et comment ça passe crème? Parce que quand tu vois des gars comme le Big G Donald Trump là, qui disent « Je suis la personne la moins raciste au monde », bon, là, tu dis « En vrai, tu te fous un petit peu de la gueule du monde ». Mais bon, en fait, c'est pas nouveau. En politique, mentir, c'est malheureusement systématique. Et le mensonge, c'est quelque chose de très mal vu aux yeux des gens, de tout le monde. Et des fois, ça peut finir très mal. Il n'y a rien qu'à voir l'histoire avec cette grosse voleuse de Marine Le Pen qui a cru pouvoir prendre des millions à la France et elle se prenait un petit peu trop pour Arsène Lupin, quoi. Il fallait la redescendre sur Terre. Bref, le mensonge en politique, ça peut, contre toutes les attentes, être bénéfique pour une société. Donc par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, étonnamment, lors d'une campagne politique donc, du président Roosevelt, il disait que les États-Unis n'allaient pas entrer en guerre mondiale, n'allaient pas entrer dans la Seconde Guerre mondiale, et que c'était vraiment pas son objectif, mais en vrai de vrai, le petit charlatan, il se préparait déjà pour aller au front. Pourquoi il mentait? C'est ça la question qu'on peut se poser. Car la guerre, pour lui et pour beaucoup de personnes, et maintenant on le sait, elle était inévitable pour les États-Unis. Donc dans tous les cas, ça allait se passer. Et l'opinion publique, à ce moment-là, ne comprenait pas vraiment pourquoi les États-Unis pourraient aller en guerre. Donc le peuple n'était pas prêt et Roosevelt voulait tout simplement éviter la panique et se faire élire par la même occasion. Et au final, ce mensonge, c'est même peut-être lui qui a sauvé l'Amérique et qui a permis de terminer cette guerre meurtrière que fut la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on peut se dire, ok, il a menti, il a voulu protéger ses srabs, mais attention, tous les mensonges en politique, c'est pas vraiment toujours pour le bien. Souvenez-vous, si jamais, il faut que je vous rafraîchisse la mémoire, dans la guerre en Irak, en 2003, le président Bush, il a dit qu'il avait des armes super dangereuses, qu'il fallait surtout pas l'attaquer parce qu'il était trop fort. Résultat, une guerre, plein de morts, et au final, combien d'armes ont été retrouvées en Irak? Zéro, parce qu'il n'en avait pas, c'était que du bluff. Donc voilà, la vie, c'est pas un poker, Monsieur Bush, donc voilà. Ou encore, on peut prendre aussi l'histoire de Staline, hein, qui a littéralement tenté de modifier l'histoire comme si de rien n'était. Là, le mensonge, là, on peut voir qu'il cause de gros dégâts, donc ça peut être bénéfique, mais dans un autre sens, ça peut vraiment aller créer de gros dégâts, exactement. Et souvent, les politiques mentent pas pour nous, pas pour eux. Pas pour nous, mais justement pour eux, pour garder le pouvoir, cacher un scandale ou éviter de perdre des votes. Regardez ce que cette voleuse de Marine Le Pen a fait. Elle voulait pas lâcher la part du gâteau, car elle allait prendre et elle a pris très cher. Donc voilà, mentir en politique, ça peut parfois aider, mais ça peut aussi détruire la confiance. Et sans confiance, on peut plus trop croire en personne, et même ceux qui disent la vérité, malheureusement. Donc la politique, à la base, ça devrait nous aider à vivre libre et à mieux comprendre le monde, à tendre vers les vérités. Et paradoxalement, le mensonge est tout le temps utilisé dans ce domaine-là. Et si on veut que ça marche, faut que les politiciens arrêtent de nous prendre pour des idiots. Mais qu'ils soient quand même intelligents à mentir sur les bonnes choses si jamais ils sentent que l'opinion publique n'a pas assez de vision sur la situation. Donc si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à lire la deuxième partie du livre d'Anna Arendt qui m'a grandement aidé à écrire ce podcast. Il est intitulé « Édifier le monde » et il est très intéressant, vous pouvez le trouver en librairie. Et merci à tous, c'était Marius, j'espère que mon podcast vous a plu.
Eh bien, merci beaucoup, Marius. Mais je pense que la prochaine fois, on va faire comme Bob, on va te muter. Non, je rigole. Mais c'était merci
un
beaucoup.
Un petit peu border.
Mais bon. Un petit peu, mais oh, ça devrait le faire. Hein. Tu vas juste te faire virer du lycée.
C'est juste la justice, quoi. C'est la vérité. Voleuse.
Enfin, bref, merci beaucoup pour ta chronique.
Ouais, merci.
On termine avec un petit bout de voyage avec moi-même aux quatre coins du cosmos. Bienvenue dans Les Récits du Cosmos, votre chronique sur l'astronomie et tout ce qui l'entoure. Ce soir, après avoir exploré les profondeurs vertigineuses des trous noirs dans notre précédente chronique, nous allons prendre un peu de recul et élargir notre regard à une échelle encore plus vaste, les galaxies. Les galaxies sont les grandes cités de l'univers. Des regroupements immenses de milliards d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire. La nôtre, la Voie lactée, est une galaxie spirale qui abrite notre Soleil parmi quelques 200 milliards d'étoiles. Quand vous regardez un ciel bien dégagé, loin des lumières de la ville, cette traînée laiteuse que vous voyez est une petite partie de notre propre galaxie, vue de l'intérieur. Il existe plusieurs types de galaxies, les spirales, comme la nôtre, qui tournent avec grâce autour d'un bulbe central, les elliptiques, plus anciennes et souvent moins actives, en forme d'ovales géants, et les irrégulières, qui ont des formes chaotiques, souvent causées par des collisions ou des fusions avec d'autres galaxies. Car oui, les galaxies ne vivent pas en isolement, elles interagissent, se croisent, s'attirent, fusionnent. Dans un environ 4 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec sa voisine, la galaxie d'Andromède, pour ne former qu'une seule entité colossale. Cette fusion des deux galaxies portera le nom de Lactomède. Et au cœur de nombreuses galaxies, y compris la nôtre, se cache un trou noir supermassif, notre sujet de la dernière fois. Ces géants invisibles peuvent contenir la masse de millions, voire de milliards de soleils, et influencer profondément l'évolution de leur galaxie hôte. Ils jouent un rôle clé dans la naissance ou l'arrêt de la formation des étoiles, façonnant le destin de ces îles cosmiques. Les galaxies fascinent les humains depuis des millénaires. Dans la mythologie grecque, la Voie lactée serait née d'un jet de lait de la déesse Héra. Chez les aborigènes d'Australie, la bande lumineuse du ciel était vue comme un chemin céleste emprunté par les ancêtres. Les anciens Égyptiens pensaient que la Voie lactée était une rivière céleste, reflet du Nil, traversée par les âmes après la mort. Chaque culture a levé les yeux vers cette lueur pâle et a vu un monde d'histoire, de croyances, d'espoir. Scientifiquement, les galaxies sont aussi un défi. Comment se forment-elles? Comment évoluent-elles? Et surtout, pourquoi la plupart de leur masse semble invisible? La matière noire, encore elle, joue un rôle fondamental dans la structure des galaxies. Sans elle, leur rotation ne s'explique pas et elle se désagrège. Une fois de plus, le visible n'est qu'une infime partie de la réalité cosmique. Certaines galaxies sont si lointaines que leur lumière met des milliards d'années à nous parvenir. Les observer, c'est remonter le temps, voir l'univers tel qu'il était il y a ses débuts. Grâce à des télescopes comme Hubble ou le James Webb, nous pouvons admirer ces merveilles anciennes, ces premières galaxies formées peu après le Big Bang, témoins muets d'une époque où l'univers n'était qu'un nourrisson. Alors, la prochaine fois que vous contemplez la nuit étoilée, pensez à ceci. Chaque point lumineux peut appartenir à un monde bien plus vaste. Une galaxie entière remplie de mystères, d'histoires et de découvertes encore à venir. Les galaxies sont les grandes bibliothèques du cosmos, chacune relatant les secrets de l'espace et du temps. Merci de m'avoir écouté, c'était Leandro, et à une prochaine pour plus de récits du cosmos. Et c'est sur cela que l'on se quitte. Très chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission de LP de nuit.
Merci.
N'hésitez pas à nous retrouver sur le site et sur la page YouTube de Delta FM. Merci à Néo.
Merci à Néo.
Merci à Gabriel.
Merci à Néo Gabriel.
Merci à Chloé.
Merci à moi.
Et merci à Marius.
Merci à tout le monde.
On se retrouve la semaine prochaine à 18h. Sur Delta FM 90.2, c'était Leandro pour LP de nuit. Nice.